Bonjour, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlaico.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. On y voit désormais un peu plus clair sur le redémarrage de l'économie et le profil de la croissance de 2021. Alors, qu'est-ce que ça donne, François ? C'est bon ou c'est moyennement bon ?
Petite éclaircie, quand même, par rapport aux prévisions de la fin 2020. La dernière étude en date, c'est celle de la Banque de France. Elle a été publiée mardi 16 mars au matin. Et elle nous pronostique une croissance de 5,5% pour 2021, donc une reprise significative. C'est un petit peu plus que ce qui avait été envisagé jusqu'ici, c'est un petit peu moins que ce que prévoit Bercy qui est à 6%. Enfin bon, 5, 5, 6, c'est évidemment le même ordre de grandeur. Il faut rappeler que 2021 succède à une année 2020 qui avait été catastrophique puisqu'on avait vu l'activité chuter de moins 8,2%. En fait, tout ça est évidemment soumis à l'évolution des conditions sanitaires, à structure inchangée, c'est-à-dire avec une amélioration progressive liée à la vaccination, on aurait une accélération de l'activité à la mi-année qui permettrait justement d'afficher ce bon résultat en 2021.
Alors qu'est-ce qui rend la Banque de France plus optimiste qu'en fin d'année dernière ? Qu'est-ce qui a changé ?
Il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, l'adaptation de l'économie qui est plus forte qu'on ne le pensait. Ça, c'est en effet très spectaculaire. Le confinement, c'est évidemment une contrainte très forte. Elle était d'ailleurs encore plus au mois d'avril ou au mois de mai, lors du premier confinement qui était plus drastique. Mais même celui de l'automne et les restrictions qui subsistent sont pénalisantes pour l'activité, mais on se réadapte et les entreprises transforment leur offre. Un signe, par exemple, pour l'hébergement restauration. On aurait pu attendre que l'activité soit voisine de zéro compte tenu du fait que quasiment tout est fermé. Eh bien non, c'est 17% de l'activité habituelle. 17, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas zéro, c'est inattendu. Le deuxième point, c'est que la consommation se tient pas mal. Là encore, contrairement à ce qu'on avait pu anticiper, c'est bien sûr lié au développement de la consommation par Internet, à la fois pour les services et pour les biens. Mais surtout, la vraie surprise, c'est que l'emploi ne baisse pas en France autant que ça avait été prévu. On se souvient de prévisions qui avaient été catastrophiques, qui émanèrent d'Emmanuel Macron. C'était spectaculaire. Bruno Le Maire disait 7 à 800 000 emplois qui vont disparaître. Raymond Soubi, qui s'exprimait dans le cadre du forum des économistes à Aix, avait là aussi prévenu qu'il y avait un tsunami de plans sociaux qui arrivait sur nous. Pas du tout. L'économie française a supprimé seulement, si je puis dire, 400 000 emplois. C'est beaucoup, mais c'est pas plus qu'une lors d'une récession classique. Et au total, ça nous fait un taux de chômage qui ne franchirait pas, selon la Banque de France, 10%. Il faut rappeler que en 2014 et 2015, il était au-dessus de ce chiffre et bien au-dessus, alors que bon, on était en croissance zéro. Selon la Banque de France, on ne franchirait donc pas ce seuil de 10% et on redescendrait tranquillement à 9% à la fin de l'année 2021. C'est lié au fait que le chômage partiel a très bien fonctionné et que contrairement à ce qui se passe d'habitude où les entreprises qui manquent d'activité ajustent par le nombre d'emplois, bah elles licencient, là elles ont ajusté par le nombre d'heures qu'elles ont fait travailler à leurs salariés. Elles ont gardé les salariés et diminué leur temps de travail. C'était d'autant plus facile que c'était la collectivité, l'État, qui finançait le complément de salaire. Du coup, ça jouait le rôle d'un amortisseur. Vous voyez que derrière ces trois surprises, le rôle des transferts massifs organisés par l'État français, avec le chômage partiel, les aides aux indépendants, les prêts aux entreprises, il est considérable. Bon, j'allais dire heureusement, compte tenu du coût que ça a coûté, évidemment.
Alors, la Banque de France n'est pas la seule à être optimiste, puisqu'elle parle pour la France essentiellement. L'OCDE a également révisé en forte hausse ses prévisions de croissance pour le monde à 5,6% en 2021.
Oui, et tous les continents en profitent. Le rebond de 2021 serait de 6,5% pour les États-Unis. Dans la zone euro, c'est moins bien, 3,9%. Mais 5,9% en France, donc nous ne serions pas très loin du chiffre américain. Quant à la Chine, bon, elle fait la course en tête, puisqu'elle, on lui prévoit une croissance de 7,8% en 2021. Regain d'optimisme qui est dû à deux facteurs. D'abord, les progrès de la vaccination, pas partout, évidemment, en Europe. Europe, on sait que ça n'est pas le cas du tout. Mais aux États-Unis, c'est très net. Et puis, surtout, le plan de relance américain qui vient d'être voté par le Parlement américain et approuvé par le président Biden, qui rajouterait 0,5% à la croissance mondiale. Donc c'est considérable. Ça se passe avec un effet d'entraînement, en particulier sur les pays qui exportent aux États-Unis et qui devraient voir leurs ventes là-bas progresser fortement, puisque le consommateur est subventionné par des chèques qui arrivent directement sur le compte en banque des ménages. Les pays qui exportent le plus, c'est la Chine et le Mexique. Ce sont les deux principaux fournisseurs du consommateur américain. Ce qui corrobore au niveau microéconomique l'analyse de l'OCDE, c'est ce qu'on observe dans l'industrie et la montée des goulots d'étranglement dans la production. Le Wall Street Journal du 15 mars publie un article qui est très intéressant où il montre que bon, dans l'électronique, les meubles, les vêtements et même la voiture, on n'arrive pas à fournir autant qu'il le faudrait. Et le signe de cela, c'est que le délai de livraison des biens industriels, tout bien confondu, au plan mondial, il est tout près du plus haut jamais observé, parce que les fabricants ne parviennent pas à suivre. Alors, c'est lié pour partie à des pénuries, hein, notamment pour les voitures, les fameuses pénuries de composants. C'est lié aussi au prix des matières premières, qui bon, fait que on a plus de mal à s'approvisionner, mais aussi à une demande inhabituelle.
Il subsiste quand même une très forte différence entre les États-Unis et la zone euro. On a quand même l'impression que les États-Unis booment davantage quand même que l'Europe, plus de 6%. Contre moins de 4% en 2021.
Oui, c'est un écart très important. Et il est d'autant plus fort que la chute d'activité de 2020 a été bien plus marquée en Europe. Donc l'Europe est tombée plus bas que les États-Unis, beaucoup plus bas, et elle remonte moins haut que les États-Unis, beaucoup moins haut. Au total, selon les calculs d'économistes qui sont parus aujourd'hui, le déficit de croissance, on appelle ça d'un terme un peu technique, l'output gap, hein, il est deux fois plus élevé chez nous qu'en Amérique pendant cette période. Autrement dit, si on avait laissé l'économie rouler normalement, eh bien, il y a un écart avec la situation qu'on observe aujourd'hui et cet écart est beaucoup plus important en Europe. En fait, il y a une vraie hiérarchie de la croissance dans le monde avec la Chine en tête, les États-Unis en position intermédiaire et l'Europe, je devrais dire plutôt la zone euro d'ailleurs, en queue de peloton, parce que le Royaume-Uni occupe une position lui-même un petit peu meilleure. En fait, c'est une hiérarchie de la croissance qui n'est pas nouvelle, malheureusement. Elle date des années 90, où on avait vu la Chine prendre la tête de la croissance mondiale, et puis les États-Unis, bien que ce soit un pays développé, conservait un rythme très intense. Tout ça, et cette hiérarchie, c'est encore renforcé par l'épidémie, et surtout par les conséquences qu'elle a déclenchées. Il y a eu un confinement plus long et plus profond ailleurs dans le monde, en Europe. La meilleure preuve, c'est que nous, on parle de reconfiner cette semaine. L'Italie l'a fait ce matin, pour la troisième fois. Hein. Vaccination plus laborieuse. Tous les jours, les médias se font l'écho des problèmes rencontrés, notamment en France. Et puis, plan de relance plus faible. Pour vous donner un ordre de grandeur, le plan Biden, dont on parlait à l'instant, va mettre 11 à 12 points de PIB dans la machine économique américaine cette année. Le plan de relance européen, si même il est mis en place à temps, rappelons qu'il n'a toujours pas été approuvé dûment, puisqu'il doit passer tout un circuit et puis il doit être voté par l'ensemble des pays. Eh bien, si même il était mis en place avant la fin 2021, c'est 1% du PIB seulement décaissé cette année. Bon, évidemment, c'est un calcul qui n'est pas complet parce que il ne tient pas compte de ce que dépense chacun des États européens de leur côté. C'est évidemment la plus grosse partie du plan de soutien et du plan de relance. Mais quand même, ça montre bien que collectivement, l'Europe a eu beaucoup plus de mal à se mettre en ordre de marche pour justement stimuler la croissance que les autres grandes zones du monde.
Alors, est-ce qu'on peut espérer quand même que ce décalage entre l'Europe et les États-Unis et la Chine sera momentané. Est-ce que l'Europe va finir par retrouver un meilleur rythme d'activité?
Oui, c'est très probable. On estime que le niveau d'activité de 2019, d'avant la crise, sera atteint en Europe en 2022 contre la mi-2021 pour les États-Unis. Ça veut dire en gros 18 mois d'écart. C'est pas rien quand même. Hein. Là aussi, c'est justement, ça contribue à creuser ce fameux déficit de croissance dont on parlait tout de suite. Tout ça étant évidemment valable si on parvient à stabiliser les choses au plan sanitaire. Le problème, c'est qu'une nouvelle difficulté va intervenir parce que le plan Biden et puis toutes les dépenses publiques américaines qui vont suivre, parce que le plan Biden qui a été voté la semaine dernière n'est que la première cartouche d'un fusil qui en contient plusieurs. La nouvelle administration est déjà en train de réfléchir à de nouveaux plans de soutien portant cette fois-ci non plus sur la consommation mais sur les infrastructures, l'investissement public avec plusieurs milliers de milliards de dollars. Donc énormément d'argent va être injecté dans l'économie américaine et ça provoque une remontée des taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce que les prêteurs, les investisseurs, anticipent j'allais dire à cause, on peut dire grâce à ces plans de soutien énormes des États-Unis, une remontée de la croissance et une remontée de l'inflation. Donc ils veulent se protéger contre cette hypothétique remontée de l'inflation, ils veulent protéger leur rémunération de prêteurs et du coup, ils prêtent à des taux d'intérêt un peu plus élevés. Je regardais ce matin, pour les États-Unis, on est à 2,28% par an pour les obligations du Trésor, c'est quand même 0,5% de plus sur la seule année 2021, c'est-à-dire sur les deux mois et demi depuis le 1er janvier. C'est le chiffre le plus élevé depuis le début de l'épidémie et le moment où on a commencé à comprendre vraiment ce qui se passait. Or, ce marché de l'argent, il est mondialisé. C'est-à-dire qu'une hausse américaine se répercute sur l'ensemble des marchés de l'argent de la planète. Et il y a donc une autre contagion qui se prépare, qui est même déjà en route. On l'observe déjà un petit peu en Europe. C'est que le plan Biden, il a des effets positifs, bien sûr, pour les États-Unis, aussi pour le monde entier, mais à l'inverse, il provoque aussi une remontée du prix de l'argent en Europe, alors que notre conjoncture, on l'a dit, n'est pas du tout la même qu'aux États-Unis. Elle est beaucoup moins tonique.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.